Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Ravi d'être en votre compagnie dimanche, fin de journée. On espère que vous avez passé un magnifique week-end avec Sud Radio, bien sûr. Et nous allons vous proposer quelques sujets qui concernent les usagers de la route, comme d'habitude. Salut Pierre Chasseret.
Salut Malolo, est-ce que tu connais les radars?
Ah là 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 là, oui.
Est-ce que tu connais les radars qui sont cachés dans les plaques d'immatriculation, qui sont confiés à des sociétés privées et qui vont venir te flasher sur les routes pour pas grand-chose?
Déjà que je me suis pris un point là pour 4 km/h de plus.
Bien, je vais t'en annoncer une bonne, c'est que dorénavant, on va prendre des photos comme ça sur la route, vous serez flashé, mais vous ne le saurez pas puisqu'en fait ça fait pas de flash. Il y a la photo mais il y a pas le flash. C'est-à-dire, en fait, je résume, quelqu'un est très dangereux sur la route, les sociétés privées le voient, la voiture fait la photo toute seule mais on ne l'arrête pas, on le laisse et on le laisse continuer à rouler. Et bien ça, pour la sécurité routière, c'est la sécurité de demain.
Allez, bon. 40 millions d'automobilistes à travers notre ami Pierre Chasseret sur Sud Radio, vous l'avez entendu, dénonce une mesure, les voitures radar privées qui vont flasher les automobilistes sur l'ensemble de la France métropolitaine. On va en parler avec notre journaliste auto du Figaro et du Figaro Magazine, Sylvain Resser, qui est en notre compagnie. On va également parler d'autre chose avec Sylvain Resser, qui est aussi un amoureux des voitures de collection, et on va poser la question, qui sont les collectionneurs de vieilles mécaniques? On en saura plus, c'est peut-être votre cas, vous qui nous écoutez. 0826 300 300. Puis on parlera des awards de l'automobile, Pierre.
Oui, un riche sujet. Moi, j'étais en train de me poser la question au moment où tu me parlais, je me disais, et si Lolo, tu devais choisir un véhicule de collection pour toi? T'as le droit de choisir, tu choisis celui que tu veux.
Jaguar XK140.
Voilà, au moins c'est clair. Moi, je coûte moins cher.
Hein. Ah, j'adore.
Moi, je coûte moins cher.
Depuis que je suis petite, cette voiture me fait rêver.
Et c'est là que Sylvain Resser, qui est déjà assis, et vous tous qui nous écoutez, vous allez voir à quel point ma Lolo me connaît par cœur. Et moi, si je dois choisir une voiture de collection, c'est quoi?
Une Coccinelle.
Ah, voilà. Avec un moteur Porsche.
De 1943.
Avec le petit moteur Porsche, comme dans le film de la Coque, ça s'était boosté avec des motorisations Porsche.
Vous l'avez compris, on parle auto, on parle surtout évidemment de vous, les usagers de la route, et on parle de ce qui se passe en termes de politique routière. Allez, on vous attend, 0826 300. Vous êtes évidemment très attendus pour participer à notre émission, d'autant que le dernier quart d'heure vous sera consacré. Vous voulez échanger avec Pierre Chasseret sur quelque chose qui vous irrite, qui vous énerve ou qui vous plaît beaucoup sur la politique routière, venez en parler avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Bonjour Sylvain Resser.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre.
Salut Sylvain, c'est un plaisir de te voir en forme.
Comme ça, on va avoir des voitures radar planquées qu'on ne saura même pas qui c'est.
Et Sylvain Resser a un tel sourire qu'on se demande si c'est pas lui qui va conduire la voiture privée. Parce que...
Bon, alors déjà, au sujet.
Déjà de base, Sylvain Resser, voilà, on en a beaucoup entendu parler cette semaine, mais il faut faire le point, on va reprendre les bases. C'est quoi cette histoire de privatisation des radars, que tout le monde comprenne bien ce qui se passe et ce qui va se passer sur nos routes?
Bah, en fait, ça permet aux forces de police de se concentrer sur leur vrai métier, sur la sécurité des citoyens, et puis de finalement de donner ce business qui va être très lucratif à des sociétés privées, tout simplement.
Donc, ça mérite d'être clair.
On va avoir dans quelques mois des voitures radar privées qui vont pouvoir nous flasher sur l'ensemble de la France sans qu'on le sache.
L'ensemble du territoire, et c'est ça la problématique.
Sans qu'on le sache.
C'est qu'il y a plusieurs choses qui me gênent, moi, là-dedans. Il y a déjà le fait qu'on ne le sache pas, puisque ça prend des photos via des systèmes infrarouges, mais en fait, vous n'êtes pas flashé, donc vous ne le savez même pas que vous avez été pris en excès de vitesse. Donc je me dis, ça veut dire qu'on l'État suppose qu'on n'est pas si dangereux que ça, parce que du coup, il nous laisse rouler. Donc en soi, il ne nous interpelle pas. Deuxième point, j'entends l'argument de l'État qui dit, oui, mais c'est pour que les forces de l'ordre puissent faire autre chose. Vous vous rendez compte, rouler avec un radar dans une voiture, c'est quand même pas le propre des forces de l'ordre. Ouais, mais sauf que pour interpeller quelqu'un sur la route qui fait n'importe quoi, une société privée, elle peut pas. Donc si je prends l'exemple de quelqu'un qui titube sur la route tellement il est bourré, plein, il double sur des lignes blanches, la société privée conduit en face avec son joujou radar dans la voiture, elle le voit.
Elle peut rien faire.
Elle peut rien faire. Elle le laisse rouler. Donc, où est la sécurité?
Sylvain Resser.
Alors, il ne faut pas s'y tromper. Finalement, c'est la traque, c'est du racket. C'est pour remplir les caisses de l'État qui ont été bien vidées avec le Covid, le confinement et le quoi qu'il en coûte. Et là, on le voit depuis quelques semaines, quelques mois, les radars ressortent, il y a des jumelles un peu partout, il y a besoin, on voit qu'il y a un besoin de remplir les caisses de l'État. Et le vrai problème, c'est que il y a de plus en plus de radars au bord des routes, mais finalement, la mortalité routière ne baisse pas. C'est qu'il y a bien un problème. Parce qu'en fait, tout ce, on va dire, tout ce jeu depuis des années, ça devait être pour baisser la mortalité. Mais elle n'a pas vraiment baissé. Ben elle non. a baissé, mais maintenant, on est autour de 3 3200 morts par an. Et on est.
Mais là où je suis pas d'accord. Ça baisse plus. Je suis pas d'accord avec vous, Sylvain Resser et Pierre Chasseret. Sylvain Resser, journaliste au Figaro, et Pierre Chasseret, Sud Radio et 40 millions d'automobilistes.
Je prépare la fessée.
C'est que ce système de radar embarqué dans des voitures privées anonyme était déjà prévu, annoncé, on en a déjà souvent parlé dans Sa Roule, avant la Covid, avant même le quoi qu'il en coûte. Donc en fait, je ne suis pas persuadé que ce soit juste à cause des caisses à remplir.
Et si,
à cause de la Covid, je veux dire.
Alors, il y a de
Vous
ça.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu les dégradations gilets jaunes sur les radars, et il y a eu un manque à gagner pour l'État qui était habitué à faire entre 1 milliard et 1 milliard 200 millions avec l'argent des radars. Là, ils ont fait 700 millions. Il manque 500 millions. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, bon, on va accroître, et d'ailleurs, ils ont budgété, ce qui est quand même incroyable, ils ont budgété la rentabilité des sociétés privées. C'est-à-dire qu'on estime qu'aujourd'hui, ce système va permettre de revenir à des niveaux de rentabilité du radar qui étaient ceux d'avant. Donc, effectivement, c'est une manne financière. Moi, j'ai une proposition. Elle est bête, comme d'habitude. Je suis un type très bête. J'entends les débats sur la présidentielle. Tout le monde dit... On veut la sécurité. Sur les départementales, dans les petits villages, on dit malheureusement, on ne croise pas les forces de l'ordre, on ne voit jamais de gendarmerie parce qu'ils sont trop occupés à faire d'autres choses. C'est une réalité. Nous, on propose à l'association 40 millions d'automobilistes une mesure simple. Le recrutement de 1000 personnes des forces de l'ordre. Alors 500 gendarmes, 500 policiers nationaux, vous faites comme vous voulez. La tambouille, c'est pas moi qui l'a fait, je suis pas politique. Et on leur confie une mission, la police de la route. Un service d'ilotage qui vient traquer les comportements véritablement dangereux sur les routes. Et qui, en contrepartie, va faire revenir un petit peu de police sur nos départementales, nos villages. Tout le monde est OK avec ça ?
Alors, on va d'ailleurs vous donner la parole, vous aussi. Que pensez-vous de la proposition de Pierre Chasseret au nom de 40 millions d'automobilistes, au candidat à la présidentielle ? C'est Olivier qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour, Olivier.
Oui,
Olivier,
bonjour.
Pardon. Vous êtes de Beaucaire.
De Beaucaire, oui. Avec le gros Mistral aujourd'hui.
Que pensez-vous ?
Justement, il vient de donner son idée. Moi, j'en avais une aussi, donc je voulais la proposer. Elle ne coûte pas grand-chose et je pense qu'elle est... Il faut le faire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, j'ai une grosse usine à côté de chez moi, là, qui a 180 ouvriers, et ils ont fait repasser le code en journée de sécurité à tous les employés. Sur 180, d'après vous, combien de personnes ont réussi le code ?
50%. 10. Non, 50%.
Deux. Voilà.
Deux. Et moi, ce que je propose, et il y a longtemps que j'ai proposé, ça fait des années que j'avais écrit à un ministre, j'avais écrit même à des animateurs télé pour proposer ce jeu. C'est un jeu tout bête. C'est repasser le permis de conduire, enfin le code de la route aux gens. Alors ça serait, c'est éducatif, c'est dire aux gens, prendre comme ils faisaient à une époque le mur 200 personnes, vous, sans ils ont le permis, sans ils l'ont pas, qui va l'avoir et qui va le perdre.
Ouais,
je suis sûr que...
Ça s'est déjà fait, en exceptionnelle en fait.
Oui, ouais. Non, c'est pas suite à mon courrier, mais c'est pas ça que j'avais demandé.
D'accord.
C'est pas ça que j'avais demandé, parce que ça a été bâclé, c'était
mais
n'importe
excusez-moi,
comment.
Excusez-moi Olivier, juste par rapport au sujet d'aujourd'hui sur les radars, vous pensez que votre proposition, qui effectivement peut être plutôt sympa, peut vraiment faire en sorte que les gens ne se fassent pas choper par les radars embarqués anonymes dans des voitures privées ?
Ben, déjà, c'est pédagogique. Donc, on réapprend à respecter les panneaux, on réapprend la conduite. Mais bon, c'est vrai que ça, c'était pour rentrer d'argent.
Alors, Olivier, moi, votre proposition, je prends. On va proposer avec Lolo. On est comme ça, nous, une petite émission pour faire passer le code aux gens. D'ailleurs, nous, on va le faire. Hein, ça va nous faire bizarre, à mon avis, parce qu'on va pas jouer les donneurs de leçons.
C'est ça.
Moi, je trouve la proposition d'Olivier
c'est hyper intéressant.
Très intéressant, parce que finalement, le conducteur, il a son permis et puis il roule toute sa vie et il est jamais évalué. tout au long de réévaluer. Donc ça peut être intéressant à différents moments de la vie de pouvoir réévaluer les gens.
Ce qui pourrait être sympa, c'est de faire ça avec par exemple l'Association des maires de France, parce que dans les communes rurales souvent il y a ce genre de choses qui se font à la salle des fêtes, des journées de ou des soirées où on révise ensemble notre code. Ça fait un carton hein, ces trucs là et ça c'est, effectivement c'est du pédagogique, alors que les médias s'en mêlent aussi. Il y a d'autres considérations, bien évidemment. Ils vont d'abord faire une étude, voir si ça marcherait, si ça fait de l'audience, que les médias, s'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de pub, s'il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'émission. Donc, mais l'idée d'Olivier est intéressante, parce que l'idée de poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie, au niveau du code, je suis pour. Mais Olivier, oui, les voitures radar.
Qu'en pensez-vous
non,
pour
là,
conclure
radar, moi, je suis contre, c'est juste une tirelire quoi, pour ramasser des sous, hein, ça sert qu'à ça. Parce qu'on peut très bien mettre des radars tronçons à la place, hein.
Oui,
ça coûterait beaucoup moins cher.
Mais moi,
ça coûterait beaucoup moins cher. Et au moins, on sait qu'il y a un radar tronçon et on fait attention.
D'ailleurs, et vous venez de dire quelque chose qui m'intéresse beaucoup et on va en parler dans quelques instants, Olivier, si vous le voulez bien. Vous venez de dire, on sait qu'il y a un radar tronçon. Dites donc, il n'y avait pas une obligation de prévenir de la présence de radar pour les automobilistes, quoi qu'il en soit. On en parle dans quelques instants, juste après cette première pause dans Ça roule. 0826 300 300, venez nous rejoindre pour en parler avec nous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous revenons évidemment sur ce sujet, si vous nous rejoignez à l'instant, merci d'écouter Sud Radio. Dans quelques minutes, nous parlerons des awards de l'automobile, dont Sud Radio est partenaire, mais aussi des collectionneurs de vieilles mécaniques. Qui sont-ils vraiment? On en parlera en détail. Et vous êtes toujours attendus au 0826 300 300 pour réagir, bien sûr, sur nos sujets, mais aussi pour venir échanger avec Pierre Chasseret, avec sa casquette de 40 millions d'automobilistes à la fin de notre émission sur quelque chose qui vous gêne, qui vous agace ou qui vous plaît dans la politique routière.
Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Allez, dans quelques mois, vous le savez, hein, des voitures radars privées vont flasher les automobilistes sur l'ensemble de la France métropolitaine. On en parle avec Sylvain Resser, journaliste auto du Figaro et du Figaro Magazine. Nous étions avec Olivier, Pierre, il y a de cela quelques instants. On me dit que Patrick de l'Île-de-France attend aussi au standard au 0826 300 300. La question que je posais, c'est dans quelle mesure il n'y a pas une obligation de prévenir, comme on voit les panneaux sur le bord de la route, qu'il y a des radars qui vont arriver, qu'on est dans une zone de radar?
Alors, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'obligation pour l'État. C'est une coutume. Le dernier ministre à s'être prononcé sur cette coutume, c'était Manuel Valls en tant que ministre de l'Intérieur. Il avait dit cette phrase mythique, je ne veux pas piéger les automobilistes en arrivant à Matignon. Bon, voilà. Si demain un Premier ministre ou un ministre de l'Intérieur dit, c'est fini, j'enlève les panneaux radar, il peut. Donc ça fait froid dans le dos d'ailleurs en soi, hein, parce que faut voir où sont placés les radars, hein, 500 mètres derrière un panneau d'abaissement de vitesse. On a l'impression que c'est quand ils posent un radar, on a l'impression qu'ils se disent où est-ce qu'on va gauler le plus de gens. Ce qui est quand même assez idiot. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est plutôt de me dire comment est-ce qu'on fait pour respecter les limitations à un endroit dangereux. C'est ça qui me viendrait à l'esprit. Et là, c'est non. Vous avez le panneau 70, vous faites 100 mètres, le radar est caché derrière la sortie d'un tunnel ou un truc comme ça. C'est complètement aberrant parfois.
Ça, c'est les radars fixes.
Oui.
Si on revient sur les radars privés,
pareil.
Qui vont nous choper là, en voiture, bah,
en pareil. En fait, comment ça fonctionne? La voiture, elle circule. Si elle est en ville encore, eh bien, elle est braquée sur 50 km/h. Donc, de temps en temps.
À Paris, 30, ou dans d'autres 30, villes.
Ouais, ou 30.
À Sceaux, par
donc,
exemple.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous croisez cette voiture 1m50 derrière le panneau, et que vous êtes à 51 en vitesse retenue, ou à 31 pour certaines villes, suivant mon regard, et bien dans ces cas-là, c'est 135 euros et la perte du point. Donc attention à tous ceux qui me donnent, parce que j'en ai toute la semaine, hein, des bien-pensants qui m'appellent en disant, ou qui laissent des messages à l'association, ils disent « j'ai une solution géniale, hein, monsieur Chasseret hein. ». Eh ben, il suffit de respecter la limitation. Non, mais j'y avais pas pensé, en plus. C'est vrai que c'est un truc bête.
C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de respecter la limitation parce qu'elle n'arrête pas de changer. Quand vous prenez, vous empruntez une route, un coup c'est 50, après c'est 70,
ça
après c'est 80 ou 90.
Mais au-delà de ça, ça vous choque pas plus que ça, ces radars embarqués dans des voitures privées qui vont nous choper? Moi je fais 70 km par jour pour aller travailler entre ici, Sud Radio et M6.
Tu vas croiser des boîtes privées.
Mais combien de fois? C'est-à-dire que je peux, sur la même journée, me faire choper 3 ou 4 fois si je dépasse un petit peu de 4-5 km/h de
Exactement,
plus.
Exactement, parce que ne peux pas être
ça veut dire quoi
sanctionné deux fois pour la même infraction, mais tu peux être sanctionné à quelques kilomètres d'écart.
Mais c'est ça, mais ça
Donc tu doubles la voiture privée, te redoubles derrière, tu la redoubles derrière, en fait t'as deux flashs.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Sylvain Ressa? Puis on va accueillir, merci d'ailleurs à Olivier.
Il y a déjà des sociétés privées qui vérifient stationnement, le stationnement. Donc,
non, mais ça marche stationnement, pas c'est en stationnement.
Oui,
là, mais... je vais rouler. Donc il y a plein de Français qui vont perdre leur permis encore plus rapidement qu'aujourd'hui.
Oui, et puis ça va, je ne sais pas combien ils vont mettre de voitures sur la route, mais c'est de la pollution supplémentaire. Parce qu'ils vont rouler avec quel type de voiture?
Ouais, bon, ça, à la limite, non, mais... moi, tu me connais, c'est pas ça, tu vas me choquer, moi. S'il faut faire de la vraie sécurité routière, pourquoi pas? S'il s'agit de traquer des chauffards de la route qui polluent tout le monde, parce que le gars, il conduit avec un téléphone portable sur la cuisse, en doublant sur les lignes blanches, là, et avec 2 grammes dans le sang, ben là, il n'y a pas de problème, qu'on le chope, et puis qu'on y aille vraiment, parce que ça, c'est des fléaux pour les autres. Mais lancer des voitures conduites par des sociétés privées dans des bagnoles banalisées pour aller choper le petit kilomètre hors de trop.
Et moi, puis, l'investissement, c'est-à-dire la voiture...
Ouais, mais ça sera rentable, hein, t'inquiète pas.
Oui, ça, j'en suis sûr. L'améliorer, on crée de l'emploi en même temps. On a Patrick qui nous appelle Duplessis-Robinson. Bonjour Patrick.
Je préfère être ici,
bonjour.
Justice.
Merci d'être avec nous. Alors vous en pensez quoi de ces voitures radar privées qui vont pouvoir nous flasher sur l'ensemble de la France métropolitaine sans qu'on s'en rende compte?
Déjà, première réflexion, c'est que on attribue une des fonctions régaliennes de l'État donc à des sociétés privées. Ça c'est déjà le premier point qui paraît quand même choquant.
Le Conseil d'État a dit pas de problème puisqu'on a fait un recours avec l'association 40 millions d'automobilistes et on a perdu, on était débouté sur tous les points, y compris sur celui-là.
D'accord. Bon, c'est fort regrettable parce que déjà, si on reprend par exemple les fourrières privées qui sur Paris, si au départ il y avait une déontologie par rapport notamment au non-système de primes au rendement, on voit aujourd'hui entre guillemets les cow-boys hein, qui conduisent des véhicules de la fourrière, on n'est plus du tout dans ces règles-là. Et ce qui risque d'arriver avec ces véhicules, c'est qu'on peut avoir dans le temps des dérives qui peuvent être assez inquiétantes. Voilà. Donc ça c'est une remarque que je peux apporter. Ensuite, encore, on s'attaque encore au fléau, soi-disant, de vitesse, des petits excès de vitesse. Ceci étant, hein, vous l'aviez bien souligné au travers de votre association, c'est pas forcément la vitesse qui est en cause. Hein. C'est une des causes, mais c'est pas la principale cause. Et aujourd'hui,
Patrick,
sur ce vecteur.
On est d'accord, c'est forcément, je pense qu'il faut être honnête, c'est forcément une des causes. S'il y a un accident, c'est que la voiture roule. Donc ça implique une vitesse. Cocher la case vitesse dans un accident, c'est une la palissade. Hein.
C'est-à-dire,
celui qui me dit « je suis mort en voiture, elle était à 0 km/h et le gars qui m'a percuté à 0 aussi », c'est pas possible. Au bout d'un moment, il y a forcément le facteur vitesse qui vient créer l'accident.
La vitesse, c'est pas une cause accident en soi, c'est un facteur aggravant.
Exactement.
Mais d'ailleurs, parce que vous testez, Sylvain Ressert, pour le Figaro Magazine, des voitures qui en ont sous le capot, comme on dit, la vitesse, quand vous dites que c'est un facteur aggravant, c'est-à-dire que même vous qui avez de l'habitude, vous sentez bien que ça peut être quelque chose qui peut faire déraper.
Non, mais c'est toujours une sous-estimation des risques et une surestimation de ses compétences.
Exactement.
Dans 100% des cas. Donc la vitesse peut intervenir, mais c'est pas forcément le seul facteur. Et c'est un facteur aggravant, c'est pas une cause en soi d'accident.
Quel recours on peut avoir, Pierre? On sait quand, par exemple, on est pris flashé par un radar fixe, que l'on est flashé des fois de dos, on peut effectivement avoir ce recours de se dire « c'était pas moi qui étais au volant
». Là, c'est la même supercherie. Là, je me suis renseigné un peu, j'ai voulu voir comment ça fonctionnait cette affaire. C'est impressionnant. On a calibré le contraste de la photo sur la plaque d'immatriculation, de manière à bien lire la plaque pour récupérer l'argent. Mais dans 9 cas sur 10, on n'identifie pas le conducteur. Alors, en termes de droit, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, Maître Yoska serait là, il nous dirait la même chose. Il nous dirait, c'est bien, si on n'identifie pas le conducteur, vous pouvez donc contester l'infraction au motif que vous n'étiez pas au volant. Charge à celui qui vous oppose de prouver le contraire. Et s'il ne peut pas prouver le contraire par le biais de cette photo, alors vous êtes sanctionné financièrement. Mais pas les points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sécurité de routière, quand on fait le choix de sanctionner financièrement, mais pas les points, moi dans ma tête, ça veut dire qu'on veut l'argent et pas forcément le permis. On veut l'argent du permis. Donc privatiser dans la tête des Françaises, c'est la même chose. On dit qu'on confie des radars, argent, à des sociétés privées. argent, et après on se plaint que les mesures de sécurité routière ne passent pas dans l'opinion publique. Non mais attendez, ils sont tombés sur la tête ou quoi? Ça ne peut pas passer, puisque on fait un trait d'union entre le monde de l'argent avec le radar. Eh ben ça passe pas, ça marche pas, et ça crée un espèce de divorce entre les Français et un discours de sécurité routière qui n'est pas profitable à la sécurité sur nos routes du tout.
Est-ce que ça existe dans d'autres pays?
Oui, ça existe en Angleterre, ces voitures radar. À la grande différence qu'en Angleterre, il y a une marge de tolérance appliquée au système qui fait que vous commencez à être flashé sur une route secondaire à partir de, j'ai fait le calcul, entre 111 et 115 km/h. En dessous, vous n'êtes pas flashé. Donc forcément, quand vous allez voir un Anglais, vous lui demandez ce qu'il pense des radars, il trouve ça très bien. Parce que franchement, bon bah, on peut dire que... Soyons honnêtes, si demain on est sur une route secondaire à 115 km/h, on le sait. On prend un risque. On prend un risque, on joue avec le feu. Si on se fait sanctionner, on ne va pas dire « je me suis fait piéger ». Il y avait une règle, on l'a dépassée, on a joué, on a perdu et on paye. C'est comme ça. Donc forcément, là, ça passe. Là, en France, c'est quoi le truc? On baisse les routes à 80 km/h. Quelquefois, c'est encore pire, comme dit Sylvain Racer. On vous fait jouer au bonneteau avec les limitations de vitesse, hein, 70, 90, 80, 70, 90. D'un seul coup, c'est 70, vous croisez une bagnole et vous prend pour 2 km/h de trop. Ben franchement, mettez-vous à la place de celui qui reçoit le PV. Il se dit, c'est pas de la sécurité. D'ailleurs, la preuve en est qu'on veut l'argent et pas la sécurité, c'est qu'on confie à des sociétés privées qui ne peuvent pas interpeller. Donc, alors que les forces de l'ordre le pourraient. C'est-à-dire, on vous laisse rouler, on vous envoie le courrier. Si vous ne payez pas, on vous enverra un deuxième courrier ou un avis à tiers détenteur. On sait que vous n'êtes pas mort. Oui, hein. Et puis, on veut l'argent.
Sylvain.
Non, mais ce que dit Pierre est tout à fait exact. Et j'ai un exemple à donner très récemment dans l'Eure-et-Loire, sur une route départementale, limitée à 80. Les gendarmes nous disent on commence à prendre à 107 km/h. C'est bien la démonstration.
Bien sûr.
Que les gens, on est incapable de rouler à 80. Faut arrêter.
Ça veut dire quoi? On commence à prendre à 107.
Parce que s'ils prennent à 80 km/h,
ils roulent tout le monde.
Ils arrêtent tout le monde.
Bah voilà.
Personne ne respecte.
Entre 80
possible.
Et 107, il y a 27 km/h.
Oui, mais il y a une raison. C'est que déjà.
Parce que il se fixe.
Déjà, il y a la marge appliquée par le fabricant du matériel.
Ouais, enfin, il y a 27 km/h.
Non, mais Lolo, il faut être cohérent. Ce qu'il faut, c'est. Moi, je comprends ce que dit Sylvain. Les forces de l'ordre font la différence, et c'est pour ça que j'aime. Les forces de l'ordre sur les routes, c'est qu'elles font la différence entre un mec dans une descente ou une femme qui est 5-6 km/h au-dessus parce que bah il a pas fait gaffe, et puis quelqu'un qui a décidé délibérément de transgresser une règle et qui joue. Et ben s'il joue, il peut perdre. Et ça me pose pas de problème. Demain, tu me dis Lolo, tu me dis je me suis fait prendre à 115, je vais dire bon bah t'as joué, t'as perdu. Mais tu vas pas me dire oh Pierre, il m'est arrivé un truc, je me suis fait piéger.
Non,
tu t'es pas fait piéger. Par contre, le mec qui reçoit un truc
radar, oui.
1 km/h en vitesse retenue au-dessus. Bah oui, c'est fait piéger, parce que tant qu'à faire, c'est la même amende pour 1 ou 20. Donc tant qu'à faire, il aurait été au-dessus. Hein.
On aura sans doute l'occasion d'en reparler, parce que je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre. Ça a déjà fait crisser les dents, hein, ces histoires de voitures radar embarquées. On en a déjà parlé, il y avait eu des tests de fait sur une certaine région normande. Voilà, a priori, ça nous arrive.
Et le jour où les bagnoles vont faire les 3-8, parce qu'il n'y a pas de quota maximal, la voiture va falloir l'amortir. Attendez-vous bien, c'est toujours pareil avec l'État. Au début, on y va gentiment, et puis une fois qu'il y a le pied dans la porte, on y va en attaque. Quand les bagnoles vont tourner 24-24, ça veut dire qu'il ne va plus nous rester beaucoup de points.
Est-ce que le même chauffeur aura le droit de faire les
3-8? Et puis au-delà de ça
normalement, si on est cohérent, il faudra changer de conducteur.
Oui, bon, ce ne sera pas un problème, c'est rentable.
Quand quelqu'un dépasse la vitesse grandement, j'imagine, on a déjà vu, hein, 160, 180 sur l'autoroute, s'il y a une voiture radar, pour le flasher, il va falloir qu'elle le suive aussi vite. Donc au lieu d'avoir qu'une voiture qui sera hors vitesse, il y en aura deux.
Ah ouais.
Les dangers sur la route. Enfin, ça va peut-être poser pas mal d'autres questions. Enfin, moi, c'est le poil à gratter, cette histoire. Franchement, j'avoue que depuis qu'on en a parlé cette semaine, je suis trop prudente au volant.
Je vais te résumer le truc.
Je fais super gaffe.
C'est facile. Si demain, il manque des correcteurs du bac à la fin de l'année pour corriger les copies, on va embaucher des profs. On ne va pas demander à mon beau-frère de débouler pour corriger les copies sur un coin de table. Eh bien, s'il manque des forces de l'ordre pour faire de la sécurité, on recrute des forces de l'ordre. C'est aussi basique que ça, la vie. Hein.
Merci à Olivier qui nous a appelé de Beaucaire et à Patrick, lui, qui nous a appelé du Plessis-Robinson, jolie ville du côté du 92. Quant à nous, eh bien, on va garder Sylvain Racer car dans quelques 10 minutes à peine, nous allons parler des collectionneurs des vieilles mécaniques. Qui sont-ils? Ils ont fait une enquête du côté du Figaro et du Figaro Magazine. Mais tout de suite, eh bien, on va parler des fameux Awards de l'auto avec son organisateur Lionel Robert qui sera avec nous en studio. C'est un partenariat parce que nous, Sud Radio, on aime l'auto.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous continuons notre rendez-vous dans quelques minutes. Si vous aimez les vieilles mécaniques, si vous aimez les autos de collection, que vous aimeriez en avoir une ou que vous en avez une, restez avec nous parce que nous allons découvrir qui sont les collectionneurs de vieilles mécaniques grâce à Sylvain Resser, journaliste auto du Figaro et du Figaro Magazine, qui nous dévoilera une enquête pour mieux connaître ses personnalités. Mais puisque sur Sud Radio, dans sa roule, on aime parler également auto, on va tout de suite parler des Awards de l'auto dont nous sommes partenaires.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Avec son organisateur, mon Pierrot, Lionel Robert, organisateur des Awards de l'auto. Bonjour Lionel.
Bonjour Laurence.
C'est quoi ? Qu'est-ce donc les Awards de l'auto, pour remettre un peu les choses ?
Qu'est-ce donc ? C'est l'événement automobile de la fin d'année qui récompense les constructeurs et les équipementiers les plus innovants de l'année. Voilà, donc c'est une belle fête de l'automobile, on va dire, qui célèbre vraiment les plus vertueux, les plus créatifs, les plus imaginatifs, enfin voilà.
Alors, et tout le monde peut voter, et c'est ça peut-être, alors pas dans toutes les catégories, mais
oui,
en tout cas,
ouais.
Tout le monde peut avoir accès au vote, et c'est là qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant
jusqu'au
pour tous ceux qui nous écoutent
octobre,
aussi.
Attention, hein.
Ouais, je vais répéter effectivement.
On peut voter pour quoi, et où, et comment ?
Alors voilà, donc on peut voter, le public peut élire la voiture de l'année, sa voiture de l'année, en se rendant sur le site motul.com.
Fiat multiple.
Elle n'est pas inscrite. Jusqu'au 31 octobre. Je précise, jusqu'au 31 octobre,
oui,
maximum.
Hein,
effectivement, le public peut voter. Il y a 14 candidates cette année qui se sont présentées. Voilà, au public.
On va reparler des candidats, évidemment.
On va les repasser en revue, effectivement. C'est une des 20 catégories des Automobile Awards, mais effectivement, c'est la seule pour laquelle le public peut voter. Mais quelque part, c'est un peu aussi la plus prestigieuse, parce qu'il y a une vraie caution populaire.
C'est le Grand Prix, quoi. C'est vraiment... L'année dernière, on peut rappeler laquelle avait été élue ?
L'an passé, c'est très drôle, il y avait eu deux ex-échos à la première place. En l'occurrence, c'était la Porsche 911 Turbo d'un côté et le Peugeot 3008 de l'autre.
Vous avez essayé les deux, Sylvain ?
Oui, oui.
Vous connaissez les deux ?
Oui.
Un coup de cœur pour laquelle ?
Une que l'autre.
Bah non, mais là, c'est pas comparable. Tu compares la voiture de Oui-Oui avec...
Bah non, parce que c'est comme quand je vais dans un 3 étoiles. Je vais pas le comparer, évidemment, basiquement avec mon petit bistrot de quartier, mais je sais faire quand même un joli équilibre.
Un rapport qualité-prix, quoi,
mais
on va
oui,
dire.
Mais oui, c'est ça. Bon, alors,
si je devais en choisir une, je choisirais la Peugeot.
Ah, t'as vu ?
Bon, eh ben, parce qu'avec la Porsche, on risque de perdre vraiment très très vite.
Alors, Lionel Robert, parlons de celles qui concourent cette année.
Cette année,
voilà.
Ouais.
Donc on a.
Elles sont 14. Elles sont. Bah, c'est très éclectique. Encore une fois, hein. Ça traduit vraiment
L'Alpine
le côté à la fois.
A110.
Bah, voilà, c'est fini. Merci.
Ça traduit le côté à la fois passion et raison de l'automobile. C'est très bien finalement quelque part. Donc effectivement, il y a alors parmi les voitures qui font rêver.
J'adore.
On va dire, il y a l'Alpine A110, une version de l'Alpine puisque la voiture n'est quand même pas nouvelle. Effectivement, on reste dans le rêve avec l'Aston Martin. Une Valhalla.
Ah,
ça, c'est un truc complètement délirant.
Mais
950 chevaux, hybride, enfin bon, un truc de dingue. Ferrari 812 Competizione.
Si
Sylvain, tu l'as déjà essayé, celle-là.
Et comment on choisit, enfin,
Attends, on va arriver sur des choses plus à notre niveau. Après.
Voilà, non, je finis avec le rêve. McLaren 765LT, Speeder, c'est pareil, on reste dans
les Sylvain, vous l'avez essayé, celle-ci ?
Non, pas celle-là.
Non plus.
Parce que vous avez déjà essayé des McLaren, vous, hein ? Je le sais, après.
Et 911 GT3, donc c'est pas la Turbo cette année, c'est la GT3 qui est sortie cette année.
Donc ça,
et qui effectivement, voilà, ça c'est pour l'aspect...
Rêve.
Top.
Fantasme.
Voilà. Top. Après, on a un cran en dessous, des choses quand même très sympathiques. C'est plutôt du premium allemand, donc on a
Mercedes.
La BMW i4.
Très bien.
100% électrique. Mercedes EQS, effectivement.
Celle-ci, elle est énorme. Hein.
Ça aussi, c'est incroyable, avec cet écran qui fait 1m41 de...
Et une autonomie qui fait rêver pour les bagnoles électriques.
Ouais. Ouais. Mais à 140 000 euros, les enfants, hein, donc ok.
Oui, c'est ça.
Oui, complètement.
Bon, il ne manque pas grand-chose. Hein.
Après, on change un peu de catégorie. Peut-être on va vers quelque chose d'un peu plus, on va dire, grand public. La Citroën C5X.
Ouais.
Ça, c'est un truc assez étonnant. C'est du Citroën pur jus, on va dire, hein, avec un style assez particulier et je pense un vrai plaisir de vie à bord. Alors là, carrément, on atteint tout ce qu'il y a de plus populaire, mais ça reste...
Mais de super qualité. On va parler de la Dacia ?
Oui.
Ouais.
Bah oui, la Jogger. Hein.
Top
la
qualité.
Jogger, c'est plutôt sympa. Et puis, ça va coûter autour de 15 000 euros à peine.
Ouais. Hyper fiable.
Ça permet quand même d'emmener 7 personnes à bord. Bon, voilà, après tout, pourquoi dépenser plus, comme on dit, hein.
Après, ça dépend du rêve.
Voilà.
Non, franchement, elle est bien, la Dacia, Sylvain.
DS4, intéressant aussi. Hein,
c'est la
nouvelle petite compacte, compacte de chez DS. Voilà, donc sur base 308, hein, puisqu'elle se partage toute la... plateforme, pardon, tout à fait.
Excusez-moi de parler.
Non, vous avez raison, il faut être précis. La 308 est également parmi nous. Ah, donc ça, c'est quand même la nouvelle 308, voilà, qui elle aussi existe en hybride rechargeable, bien sûr. Lexus qui nous amène un nouveau NX, qui pour la première fois chez Lexus, c'est hybride rechargeable, donc ce n'est pas que de l'hybride. Il a un bon petit look, ce Lexus NX, également. Et puis on terminera par la Skoda Enyaq, donc la voiture 100% électrique, la première 100% électrique de Skoda.
D'accord. Enfin,
vrai 100% électrique, en dehors de la petite qui était sortie à la Citigo. Merci Sylvain.
Voilà. Du Figaro Magazine.
Et puis, pour finir, une qui fait partie des favorites, la Toyota Yaris Cross. C'est un peu la réminiscence du RAV4 des années 2000.
Moi, ce que je note surtout, c'est que ça y est, on a des véhicules électriques avec de la vraie autonomie qui arrivent dans le panel, et que ça suit un petit peu ce qu'on entend ça et là. Hein. C'est-à-dire que même si, moi, mon rôle, c'est de défendre les automobilistes, il faut aussi pas se voiler la face. Quoi qu'il arrive, politiquement, on a décidé que l'électrique serait l'avenir. Donc, il n'y a plus à tortiller maintenant.
Un automobiliste, dans une voiture, si ça roule, et ça roule longtemps, et bien, alors, ça reste un automobiliste.
Après, est-ce qu'il y aura des bornes? Ça, c'est autre chose. On en parlera certainement dans les semaines à venir. Mais en tout cas, ça n'enlève rien au savoir-faire des constructeurs qui commencent à proposer des produits, certes, pas accessibles. Hein, la Mercedes, pas tout de suite. C'est pas... il m'en manque un bout, quand même, je dirais la vérité, pour accéder aux 150 000. Mais... c'est quand même la preuve qu'on va vers des véhicules qui sont sérieux et crédibles en termes d'autonomie, quoi.
Et les awards de l'automobile, qu'est-ce que ça apporte en fait à ces marques-là? Parce que c'est très beau d'aller voter avant le 31 octobre. Mmh. Est-ce que c'est une vraie plus-value pour ces quand vous avez par exemple le Grand Prix du awards?
C'est une vraie, on va dire, c'est une vraie caution populaire pour le coup dans le cadre du Grand Prix. Ça n'a pas encore la notoriété, par exemple, de la voiture de l'année que connaît bien Sylvain, mais ça aspire à le devenir. L'an passé, par exemple, Peugeot a fait une double page de publicité à l'issue de sa victoire dans la presse pour célébrer justement le fait qu'elle ait été élue voiture de l'année. Donc ça prouve bien que cette caution est importante. Plus de 240 000 votes l'an passé, donc ça commence à devenir, je dirais, un vrai satisfecit pour les marques. Elles en seront ravies.
Pour le côté pratico-pratique, on va sur le site des
Motul.com.
Motul.com,
qui est le partenaire.
Et puis on vote.
Exactement. Okay. Parmi les 4 Corses candidates sont présentées avec une photo, un petit texte, et vous votez pour une seulement, évidemment.
On aura les résultats
le 9 décembre.
Ok, juste un mois après mon anniversaire.
Voilà.
Bizarre cette date.
Décembre. C'est pas par hasard, à mon avis.
Je sais pas, moi ça me rappelle, en 2017, c'était pas le 9 décembre qu'il y avait eu cette grande journée d'hommage à Johnny Hallyday à la Madeleine. Et c'est le 9 décembre que ce jour-là, j'ai arrêté de fumer. Voilà, c'est pour ça que le 9 décembre, moi. C'est bizarre, hein?
Comme quoi on fait des. Très bien.
Je sais pas s'il y a un lien entre le concert de Johnny et le fait qu'il arrête de fumer. Ça, l'histoire dira le contraire. Mais en tout cas, chose est sûre, c'est que le 9 décembre, on connaîtra qui est le lauréat du Grand Prix ACF et donc dans toutes les autres catégories.
Et les autres catégories, il y en a 19 autres également, équipementiers et constructeurs confondus.
Et comme nous, Sud Radio, on adore les awards de l'auto. On aura évidemment l'occasion d'en reparler tout au long de cette fin d'année 2021.
Et Lionel pourra revenir.
Merci beaucoup. Robert, vous connaissez
bientôt
la maison, hein? Vous venez quand vous voulez.
Je me sens très bien.
Et Sud Radio, on est très très fiers d'être à vos côtés pour ce grand événement. Allez, dans quelques instants, là maintenant, tout de suite d'ailleurs, c'est même pas dans quelques instants, c'est maintenant, qui sont les collectionneurs de vieilles mécaniques?
Sud Radio, ça roule.
Déjà, ceux qui ont un multiplat. Moi, je reviens dessus, désolé, mais au bout d'un moment, il va falloir sauver ceux qui en ont encore. Je pense que la pièce détachée nécessite des pièces pour les multiplats.
Et en boucle sur le multiplat.
Mais c'est pas beau.
C'est
hyper pratique, mais il y a plein de trucs comme ça dans la vie qui sont pas beaux.
Figaro Magazine, vous avez dévoilé, c'était le 6 octobre dernier, dans le Figaro Magazine, une étude qui nous permet de mieux connaître les collectionneurs de vieilles mécaniques.
Oui, alors j'ai repris une étude qu'a menée la Fédération française des véhicules d'époque. La dernière remontait à 2015, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Et les résultats sont assez instructifs, en fait. On voit que le nombre de collectionneurs a augmenté dans des proportions assez importantes, puisqu'on est passé de 230 000 à quand même 400 000 collectionneurs.
C'est colossal, hein?
Que le 400 000.
Pratiquement le double.
Est-ce que tu aurais imaginé 400 000 collectionneurs? Et encore, si on voulait, on peut même rajouter les Young Timers, qui sont les collectionneurs dedans.
L'étude montre que...
Ils sont dedans, c'est eux qui augmentent le truc.
Donc il y a 400 000 collectionneurs maintenant, et sur les 400 000 collectionneurs, l'étude montre qu'il y a presque 30% d'entre eux possèdent au moins un Youngtimer.
Ouais, c'est cool. Alors, voilà. Youngtimer, c'est la de Dodge, c'est les voitures de 30 ans, là,
des années 80. C'est des voitures, en fait, qui n'ont pas encore 30 ans, donc ouais. qui sont pas éligibles à la carte grise de collection, dite de collection, et qui ne circulent plus tous les jours, en fait. C'est des
voitures qui servent... La R5 de ma grand-mère, je serais pas un Youngtimer, alors?
Si.
Ah, bah donc, l'année 80, on est...
Oui, mais alors, dans les Youngtimers, on met...
Oui, c'est ça.
Mais si tu n'as... Si tu n'as que une 205 qui est pas encore éligible voiture de collection, tu n'es pas encore collectionneur, tu es Youngtimer uniquement. Donc le chiffre des 400 000 va être amené à grandir encore plus. Bah,
plus on va avancer dans le temps, plus ce chiffre, effectivement, comme le dit Pierre, va grossir.
Alors, question tout de suite. Est-ce que les collectionneurs de vieilles mécaniques sont des gens riches, avec des casquettes en tweed, des pantalons en velours,
oui,
ils habitent à la campagne, ils vont à la chasse? Il y a une espèce d'image comme ça.
En fait, les collectionneurs, ce sont vous, moi, ouais, notre voisin, c'est tout le monde en fait. Il suffit d'aller à Rétromobile pour voir...
La folie.
La folie.
Et le prix de l'accès aux véhicules d'époque, aux véhicules de collection, il n'est pas si exorbitant que ça. Je prends 2-3 exemples, alors je rigolais avec mon multital.
Lionel Robert,
mais
aussi,
mais si on va sur une 2 chevaux, si on va sur une Méhari, et il y a des alternatives intéressantes, même à la Méhari, il faut savoir qu'il y a Renault qui a sorti un modèle.
La Rodeo.
Voilà, qui coûte 3-4 fois moins cher que la Méhari sur le marché de l'occasion. Pour 4-5 000 euros, vous sortez avec un véhicule, tout le monde va croire que c'est une Méhari d'ailleurs.
Mais alors, c'est quoi le profil
Alors,
est-ce qu'il y a un profil ou pas?
Ce qu'on peut dire quand même, c'est que ce sont des gens qui gagnent quand même un peu mieux leur vie que la moyenne nationale,
oui,
puisque l'étude montre que le revenu est quand même moyen est de 54 000 euros par an.
D'accord.
Alors que la moyenne nationale est deux fois moins élevée. Donc c'est quand même des gens qui ont les moyens.
Qui ont généralement deux voitures, celle-ci pour le plaisir, celle
oui,
pour
c'est
le...
ça. Et par contre, la première marque collectionnée, c'est Citroën.
Je suis pas étonné.
Donc les gens collectionnent des deux chevaux, des DS. Ouais.
Je suppose qu'on va pas trouver
les
très loin. La petite coccinelle, elle doit être dans le lot tête.
Volkswagen est quatrième.
Alors donc, marque préférée des collectionneurs en France, c'est Citroën.
C'est Citroën. Après, c'est Renault.
Okay. Voilà.
Et après, c'est Peugeot.
D'accord. Et après, on part sur
et
les
après,
étrangers.
On a Volkswagen. Et effectivement, la coccinelle, le combi, bien sûr, qui revient à la mode.
Qu'ils ont sorti en électrique, d'ailleurs. C'est ça rigolo. L'électrification du combi, c'est un truc qui heurte, hein, quand même. Parce que le combi, c'est l'esprit, je fais quand même pas mal de kilomètres. Donc, bon, avec une autonomie, pourquoi pas.
Lionel Robert, qui est toujours avec nous, hein, monsieur Awards de l'auto, mais pas seulement. Vous êtes collectionneur, vous-même?
Oui, j'en ai une.
C'est quoi?
Moi, j'ai une 911.
Ah, donc voilà, là, il n'y a pas la casquette en tweed, il n'y a pas le pantalon de velours.
Encore. Ça va venir.
Mais en fait, on avait la sensation, avant, ça a beaucoup changé, que c'était quand même réservé à une certaine élite sociale. C'est plus le cas du tout. Et
non,
ça, c'est
mais
top.
Ça l'a jamais été, en fait.
Ah bah quand même, on n'en avait pas partout.
Non, mais parce qu'on pensait à des modèles peut-être un peu plus haut de gamme, genre Jaguar ou Ferrari ou Bugatti, ou des marques peut-être un peu plus prestigieuses, où il faut des moyens un peu plus élevés.
En termes d'âge?
En termes d'âge, alors c'est là où il y a un problème, c'est que la population des collectionneurs a tendance à vieillir.
Ah bah ouais.
Donc l'âge moyen est de 53 ans et c'est une des difficultés de...
L'âge moyen d'accès aux véhicules neufs, c'est passé à 57 ans.
Ouais. Et puis il y a un tel car bashing aujourd'hui que les jeunes générations sont plus sur les transports en commun que les voitures, à part dans les grandes métropoles. Est-ce que ça joue pas tout ça?
Moi je trouve qu'il y a encore, alors évidemment parce qu'il y a cette étiquette, mais le plaisir qu'on peut retrouver dans un véhicule d'époque, un véhicule de collection, il n'est encore une fois pas si inaccessible financièrement que ça. Alors bien sûr, des véhicules, la 911, c'est quand même le super investissement. Elle ne décotera plus, elle ne peut que gagner maintenant. Elle est de quelle année, Lionel?
2005, moi, donc elle est relativement récente.
Oui. Elle est récente,
voilà. J'ai un bébé encore.
Mais moi j'avais une question à te poser justement, Pierre, par rapport au droit de circuler. Est-ce que tu ne penses pas qu'avec l'évolution justement de la réglementation et le durcissement, un jour peut-être que nos Youngtimers ne pourront peut-être même plus rouler, qu'elles seront circonscrites au circuit par exemple.
Et ensuite, on accueille Daniel qui nous appelle.
La Fédération française des véhicules d'époque fait un magnifique boulot pour défendre le véhicule de collection et à chaque fois, ils s'en sortent. Alors, il y a les gouttes de sueur qui tombent, mais ils s'en sortent à peu près. Mais oui, j'ai peur. Mais tu sais, Lionel, là où je suis quand même plutôt intéressant, je regarde ce qui se passe, ne serait-ce que dans les idées de la campagne électorale, et je m'aperçois que contrairement à il y a 5 ans, où mon message était inaudible. Je ne parlais à aucun candidat. Quand ils me voyaient, les candidats, ils faisaient 3 mètres. Ils disaient, putain, si j'ai Pierre Chasseret sur la photo, je suis mort, je n'ai plus une voix. Il fallait être écolo à tout prix. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. On assiste quand même à des revirements. Les taxes sur les carburants, les autoroutes, il y a pas mal de sorties comme ça. Je me dis qu'on est peut-être au bout du tunnel sur le car bashing.
On espère. Peut-être. S'il va rester très vite, parce que j'ai Daniel qui patiente au standard.
Je pense que c'est pas un problème, parce que... Premièrement, les voitures anciennes ne roulent pas en ville ou très peu.
Les c'est 1000 km par an la moyenne.
Voilà, et les gens roulent 1000 km par an en moyenne avec leur véhicule. Donc pour moi, c'est un faux problème.
Mais même Anne Hidalgo accepte qu'il y ait quand même la traversée de Paris 2 fois par an avec les anciennes un dimanche. C'est pour vous dire.
C'est dire si
Daniel,
tout va bien, quoi.
Daniel est avec nous de Paris. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Au 0826 300 300.
Merci de m'accueillir.
Merci à vous. Alors vous êtes un collectionneur, vous ?
Oui, absolument.
Alors,
oui.
Il me faut votre carte d'identité. Quel âge, quel revenu mensuel. Non, je rigole. Pour savoir si vous rentrez dans les.
Et célibataire ou pas. Ah, c'est la question subsidiaire pour Lolo.
Pas du tout.
Bon.
Non, Daniel, on vous taquine.
Allez-y. Ah non, mais au contraire, moi je peux répondre à tous, en toute transparence. Hein.
Alors, allez-y. Daniel, vous êtes collectionneur vous-même et pourquoi ?
Alors, pourquoi je suis collectionneur ? Parce que, en premier lieu, j'ai toujours aimé l'automobile, toujours. J'aime ce moyen de transport, la conception des véhicules, les ingénieurs, les innovations dont elles sont à l'origine. Je trouve ça l'automobile. D'ailleurs, j'aime beaucoup votre émission parce que c'est une façon de redonner le blason à cette automobile qui est aujourd'hui très malmenée. On lui met tous les mots sur le dos, alors que c'est une merveille. Ça a permis aux gens de beaucoup de choses. Ça a permis l'évolution qu'on a actuellement. C'est l'automobile, c'est-à-dire
les vacances, les week-ends, le temps social, on est ses gamins.
Sauver des gens, sauver des vies. Il faut arrêter. L'automobile, c'est une merveille de technologie et ça a été une révolution. Il y a eu avant et après. Et l'automobile, il y aura toujours un système de transport.
Alors là, Daniel, vous venez de me dire un truc. Je regarde Sylvain Resser au Figaro, on a le même regard, on s'est compris. Nous, on entend au quotidien l'automobile, ça tue. Et vous avez raison, vous avez l'argument qu'on n'y a pas pensé. L'automobile, en fait, ça tue pas, ça sauve des vies.
Ouais. Mais alors, du coup, il y a aussi un côté patrimoine, moi, qui me plaît beaucoup dans la voiture de collection. Je ne sais pas si vous partagez ça, Daniel.
Alors, tout à fait. Alors évidemment, comme j'ai la double casquette, je suis chirurgien et collectionneur. Donc, le côté sauver des vies, je le vois tous les jours. Je veux dire, le nombre de situations où on a pu amener quelqu'un grâce à un moyen de transport, et on serait au fin fond de la campagne, il n'y aurait pas...
Alléluia.
Et voilà, le bruit, c'est quand je suis tombé de ma chaise. Hein,
parce Alléluia. Qu'est-ce que vous nous faites du bien,
non,
Daniel
mais on est tous meurtris par toute cette politique de démolition systématique alors qu'on connaît les valeurs de nos collectionneurs. Alors la collection c'est effectivement il y a deux choses. Il y a la valeur patrimoniale, l'image, le fait de transmettre sa mémoire. D'ailleurs moi j'ai 70 ans et qu'est-ce que je collectionne ? Eh ben je collectionne des voitures que mes parents qui étaient instits ne pouvaient pas se payer. Et je voyais la MK2, je trouvais ça magnifique. Et quand j'ai eu la possibilité d'acheter une Jaguar MK2, voilà. Et ma fille, eh bien, quand j'ai vu qu'elle se mettait à collectionner une Renault 5, je lui ai dit, mais non, les Renault 5, on les mettait toutes à la casse. Elle m'a dit, tu rigoles, papa, j'ai une Renault 5 vert pomme.
Bien sûr.
Et voilà.
Et c'est donc, le souvenir en fait, des parents.
On l'appelle la
Bien sûr.
Bien sûr. La Honda Accord de 1979 que j'avais quand j'étais petit avec mon père, je rêverais de pouvoir monter dedans.
Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a le côté patrimoine, Daniel, pour conclure, parce que malheureusement, vous savez, une émission de radio, ça a un timing, plus le côté plaisir et le côté patrimoine personnel, en fait.
Oui,
c'est ça qu'on entend.
Un dernier point que je trouve très important, c'est ces rassemblements, c'est le côté social, les échanges. T'as un truc, tu peux me donner une combine, et tous les milieux sociaux, alors là, c'est très intéressant, quel que soit le milieu social, le type a peu de moyens, il a de gros moyens, et bien, tous ces gens-là se retrouvent autour d'une même passion,
la voiture
ancienne, et on est, là, il n'y a pas les revenus, les machins, la plus grosse, j'ai moi qui est la plus belle, machin, non.
Non, on parle de voitures,
on parle des bagnoles, entre nous, et voilà.
Merci beaucoup, Daniel, j'ai adoré votre témoignage. Est-ce qu'on peut garder votre numéro, parce que vous ferez partie des auditeurs d'honneur?
Non, on ne lui demande pas, on le garde.
Mais oui, moi, je ne vous demande pas de le garder, vous êtes obligé de le garder.
D'accord, voilà, j'adore, je vous adore.
Moi, il est déjà enregistré, donc c'est fait.
Sylvain, à bientôt, Daniel, merci.
Très bonne émission,
merci à vous. rendez-vous de Paris pour ce dimanche soir. En 30 secondes, parce que vraiment le temps est imparti maintenant, là, est vraiment, vraiment court, une réaction par rapport à ce témoignage d'amour et de bon sens de Daniel.
Non, mais il a tout dit. C'est du partage, c'est de la passion, c'est de l'amour,
C'est ce que disait le président
la
Macron.
La voiture ancienne, c'est
cette
la vie.
Semaine,
c'est la vie, la voiture ancienne.
L'histoire de France.
Ça fait partie du patrimoine culturel, industriel, ouais. économique. Ça rapproche les gens.
Et moi, ce que j'aime dans l'automobile ancienne, c'est que ça nous permet de voir aussi où on est arrivé. Parce que c'est bien beau de parler des véhicules électriques qui arrivent demain, de l'hydrogène, pourquoi pas, et de toutes ces nouvelles énergies, c'est fantastique. Mais je suis absolument convaincu que voir d'où on est parti, c'est le seul moyen de voir le chemin qu'on a parcouru. Il ne faut pas cracher sur l'automobile, c'est important.
Allez, on aura l'occasion là aussi de laisser beaucoup de place dans Ça roule et aux Awards de l'automobile avec son organisateur Lionel Robert. Et Sud Radio est partenaire de cet événement, mais aussi à tous ceux qui aiment la voiture. D'aujourd'hui, d'hier, évidemment celle de demain. Allez, on continue. Dans quelques instants, je vous donne la parole pour échanger avec Pierre Chasseret. Vous venez dire tout ce qui vous taquine, vous irise, vous plaît dans les politiques routières ou tout ce qui se passe autour de la voiture aujourd'hui. Échange avec le DG de 40 millions d'automobilistes. C'est aussi ça, Sud Radio.
Sud Radio, ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et vous êtes avec nous en ce dimanche fin de journée. Merci de nous écouter le week-end aussi sur Sud Radio. Ça roule tous les dimanches soirs avec vous. Et évidemment, à ce moment de notre rendez-vous, eh bien, on vous donne la parole. C'est une émission un peu spéciale. À la fin, c'est vous venez échanger avec Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes. Alors tout de suite, place à Jean-Pierre qui, lui, nous appelle de Montpellier. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Laurence, bonjour Pierre.
Attendez, on vous écoute.
Oui, moi, ce qui m'agace actuellement avec le gouvernement, là, il y a 25 ans, on nous vendait des voitures à gaz. Vous en voyez encore rouler des voitures à gaz? Maintenant, c'est l'électrique. Il ne faut plus rouler au fioul, il ne faut plus rouler à l'essence. Ils nous prennent vraiment pour des jambons.
Ah, il me le sert sur un plateau, ma phrase. Là. Moi, je dis dans la vie, il y a des gens bien et des gens bons. Voilà, comme ça. J'aime beaucoup.
Vous ne pensez pas qu'ils sont en train de nous le faire à l'envers, mais comme il faut, avec la famille qui est au gouvernement?
Alors, en fait, je vais être très honnête. Ouais, je comprends que vous doutiez de l'énergie électrique. Moi, je suis un peu comme vous. J'ai du mal à me projeter quand je n'ai pas des certitudes. J'ai du mal à envoyer des gens et à dire, moi, j'ai 40 millions d'automobilistes derrière. Si je dis à tout le monde, la voix, c'est ça. Dans 10 ans, je n'ai pas envie de passer devant les miroirs en me cachant et en me disant, j'ai dit une connerie. Donc, là, ce que disent les constructeurs à Sylvain Resserre, à Lionel Robert, à tous nos invités qu'on peut avoir en studio, à Lolo, on nous dit, non, là, cette fois-ci, effectivement, l'électrique va prendre des parts de marché très importantes. Et ça ne me gêne pas de le dire dans ce sens-là. Vous garantir que l'électrique sera la seule énergie demain, je ne vais pas me risquer à ça. Par contre, vous avez raison, on nous a dit acheter du diesel. Apparemment, il ne fallait pas. En 2008... Grenelle de l'environnement, on nous disait d'acheter du diesel. On a gagné de l'argent pour ça. On nous donnait une prime pour l'achat d'un véhicule diesel. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de rouler avec. Je vais aller plus loin. La prime Macron d'acquisition d'un véhicule plus récent, qui était une prime intéressante, était éligible sur des vignettes critères 2, des véhicules diesel. Et aujourd'hui, dans certaines villes, on n'a pas le droit de rouler avec. Donc, moi, je m'interroge. Comme vous, Jean-Pierre, je me dis, là, il y a un truc qui ne colle pas. Il y a un truc qui colle pas. On est trop sectaire vis-à-vis des motorisations. Et je pense qu'on est en train peut-être de tuer les innovations potentielles sur d'autres secteurs. Alors, je remarque aussi que beaucoup d'entre nous aiment l'hydrogène. Il faut savoir que l'hydrogène, c'est une pile à combustible. C'est une voiture électrique, la voiture à hydrogène aussi. Hein. Donc, est-ce que l'énergie électrifiée est l'avenir demain? À titre perso, je crois. Mais c'est sur le demain. C'est quand? 10 ans, 20 ans, 30 ans? Là, je ne peux pas vous dire.
Jean-Pierre?
Oui. Le gros problème, c'est qu'il y a 25 ans, il y a des voitures à gaz. Est-ce que vous voyez encore?
Il y en a encore. En Italie, on a beaucoup plus. Ils avaient fait le choix du gaz sur les voitures en Italie.
Le GPL,
Le GPL. Il y avait eu. En fait, c'était une énergie correcte, mais vous voyez aujourd'hui le prix du gaz. Donc, on se doute qu'au bout d'un moment, c'est pas viable. En fait, si vous voulez, tant qu'on n'aura pas inventé une voiture qui fonctionne toute seule et qui n'a pas besoin d'énergie, on sera toujours dépendant d'une énergie. La voiture à gaz, c'est pas imposé. Parce que je pense qu'il y a une image assez négative. Il y a eu une voiture qui avait explosé une fois à l'époque où il n'y avait pas les soupapes de sécurité. L'image est restée collée à la peau. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des voitures électriques qui ont brûlé et elles n'ont pas cette image négative qui leur colle. Mais les Français ne sont pas fans de l'électrique globalement.
Bon, Il y a le flex fuel aussi. Le flex fuel, moi j'ai mon fils qui en a une, il fait le double de consommation qu'avec une essence.
Non, c'est pas le double. Alors je suis à l'éthanol. Dans le pire des cas.
20%.
Non, dans le pire des cas, vous êtes à 25%, ouais, vous faites quand même une économie. Dans le pire des cas, 25%.
Sauf s'il appuie fort sur le. Ça dépend comment il roule en fait.
Ah oui, ça par contre, ouais. on est d'accord.
Il roule.
Il roule. Voilà.
Ça roule.
Ben ouais, mais il fait, Baptiste rassure, il fait une économie quand même. Non, l'éthanol, faut pas le dire trop fort, parce que si tout le monde va dessus, j'ai peur que les taxes augmentent. Mais pour l'instant, alors ça reste entre nous, Jean-Pierre.
Hein. Faut pas répéter, quoi.
L'éthanol, si vous avez une motorisation essence, c'est le bon plan pour faire 30-40% d'économie minimum. Bon, voilà.
J'ai une vieille jeune qui roule au Super 98 et ça me dérange absolument pas.
Bon, tant que les prix montent pas plus encore, moi j'ai peur. Hein. Moi, je vous dis, ça fait 4 ans avec Lolo que quasi toutes les semaines, je sors la même phrase. Les prix du carburant seront un des enjeux de la présidentielle. Et on n'a pas encore tout à fait compris, mais bon.
Voilà, en tout cas, merci à Jean-Pierre d'être venu nous parler de ces différents carburants à l'antenne et puis des différentes façons de rouler.
Mais, tu vois, ça veut dire, les Français ne savent plus quoi acheter comme voiture.
C'est sûr.
Eh bien, moins 20% de vente sur les véhicules neufs, voilà.
Entre autres. On vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à partir de 18h et tous les matins du lundi au vendredi, Pierre, à 5h.
6h17.
Ah, tu fais une grasse masse.
Non, 5h du matin. 5h du matin, moi je suis encore dans les bras de Morphée.
Elle s'appelle Morphée maintenant.
Ou Alizé. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais je veux pas d'histoire, je veux pas me faire engueuler en rentrant. Donc non, je suis dans les bras d'Alizé. Pas Morphée, promis chérie, je suis pas avec Morphée.
Les programmes continuent sur Sud Radio pour ce dimanche soir. Soyez prudents si vous êtes sur la route et évidemment, nous, on vous retrouve très prochainement. Bonne soirée.